voit des choses majestueuses par rapport aux dons prophétiques. Va dans telle rue, fais ça, prends un tel, etc. Et donc, il y a plein de choses qui sont fortes et puissantes. Mais face à cette force et cette puissance, eh bien, il y avait aussi l'adversaire. Il y avait aussi des faux raisonnements. Il y avait aussi, face à la vérité, eh bien, il y a la vérité et il y a le mensonge. Et qui dit vérité, dit bonne compréhension de la vérité ou dit mauvaise compréhension de la vérité. Et qui dit forcément vérité, dit père du mensonge, l'adversaire. Dit la vérité qui nous demande de renoncer à notre chair. Il y a notre chair qui est en réaction par rapport à la parole de Dieu. Et donc, c'est important de se concentrer sur ce qu'est la vérité, sur ce qu'est la parole de Dieu. Et on voit dans les Actes des Apôtres, acte 2, verset 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. En 1 Timothée 4, verset 13, Paul exhorte Timothée à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Il dira à Timothée, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, encouragé à enseigner. Et c'est non seulement quand on enseigne, mais non seulement pour nos propres vies. Et finalement, quand on regarde la définition de persévérance, la persévérance, ça veut dire tenir ferme. Et donc, si on parle de tenir ferme, c'est parce qu'il y a une adversité. Comme Sandy le disait tout à l'heure, quand on pense à toutes les circonstances, à tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, ça pourrait quelque part nous faire croire que la parole de Dieu est neutralisée, que la vérité est neutralisée, alors qu'en fait, la vérité soutient le monde. La parole de Dieu nous dit que la vérité soutient le monde et que la vérité, la parole demeurera éternellement. Et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu va aller jusqu'au bout de sa parole, jusqu'à ce qui est prévu dans l'Apocalypse. Eh bien, Dieu le fera. Malgré toutes les circonstances, tout ce qui peut se passer dans nos vies, Dieu le fera parce que c'est la vérité. Et la vérité ne se change pas. La vérité ne s'altère pas. Les hommes l'altèrent, les hommes la changent. Mais la vérité de Dieu, la parole de Dieu ne se change pas. Amen. Et donc nous avons ce travail de demeurer dans la parole de Dieu. Et je faisais le constat dernièrement que finalement, tout est fait dans le monde pour nous détourner de Dieu. Si on parle par exemple du divertissement, parce qu'on est dans une société où on a du divertissement, en voulez-vous, en voilà, on a tout sous la main, avec nos smartphones, la télé, nos loisirs, bon, même si c'est forcément les loisirs ont été mis un peu en stand-by en ce moment, mais on a quand même beaucoup de choses qui viennent finalement, le divertissement, la définition, c'est dit que ça vient détourner l'attention. Et finalement, je pense qu'il est important ce matin de se poser la question en disant, est-ce que parfois mon attention n'est pas détournée de la vérité? Et vous savez, il y a beaucoup même d'intellectuels, d'écrivains, de sociologues qui en font le constat en disant, aujourd'hui on est dans une société de divertissement où en fait on empêche les gens de réfléchir. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué parfois nos comportements quand il y a une nouvelle, quand il se passe une catastrophe ou quand, par exemple, il y a des élections, etc. C'est « chut, 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 tu t'attends, il faut que j'écoute là, qu'est-ce qu'il vient de dire ?»« Ah, je n'ai pas entendu, ah, il faut que je regarde vite, vite !» Et parfois, on aime bien, en fait, ça fait partie de l'homme, de l'être humain, d'être curieux, d'être à l'affût de ce qui se passe dans le monde, de savoir ce qui vient de se passer quand on aime bien certaines stars, certaines personnes publiques, bien on regarde, etc., on s'alimente. Et en soi, il n'y a rien de mauvais. Mais ça devient de mauvais quand finalement on en vient esclave. Quand finalement on devient esclave de ce divertissement où en fait le chut, chut, chut pour entendre les infos, les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, on le dit facilement. Mais est-ce qu'on est le chut, chut, chut? J'ai besoin d'entendre la vérité. J'ai besoin de retourner aux pieds du Seigneur et j'ai besoin d'être de nouveau nourri de la parole de Dieu. Et certains intellectuels et sociologues diront, par exemple, que au niveau de notre système sociétal aujourd'hui, c'est jouer, jouer, nous ferons le reste. Vous, on vous donne les jeux, on vous donne le divertissement, on vous donne la télé, on vous donne plein de choses. Nous, pendant ce temps-là, on s'occupe de vous, on est en train de réfléchir à votre place, on est en train de penser à votre place. Jacques Attali, qui est un écrivain et un intellectuel, dit que la meilleure manière de contrôler la population, c'est de lui donner du pain et du jeu. On vous donne de quoi vous nourrir, on vous donne du divertissement, on nous donne du divertissement, et pendant ce temps-là, tout passe. Et est-ce qu'on est dans cette attitude et dans cette alerte de dire « Mais est-ce que je suis encore capable de réfléchir à ce que j'entends, à ce que je lis ?» Et c'est vraiment dans cette démarche-là ce matin que je veux nous interpeller en disant « Il est important de persévérer et de demeurer ferme dans la parole de Dieu. » Parce que tout est fait. Et Satan, le premier, veut nous détourner de la vérité. Alors ce matin, j'ai envie de vous mettre un peu l'eau à la bouche et nous donner cette envie de dire « Hé, restons dans la vérité, demeurons dans la vérité. » Et vous savez, la parole, cette parole, la Bible, eh bien ça révèle Christ de A à Z. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Et souvent, on aime bien dire « Ah oui, je suis Jésus, j'aime Jésus ». Mais si tu aimes Jésus, Jean 14, verset 6, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors si tu aimes Jésus, si tu aimes ton Sauveur, si tu dis « Je veux le suivre », eh bien dans ta vie, tu dois suivre la vérité. Parce que c'est Jésus qui est révélé au travers de la parole et de A à Z. De A à Z, on va prendre Luc, chapitre 24, verset 27. Et là, je trouve qu'on a un merveilleux exemple qui nous montre, maître, que dans l'Ancien Testament, qui est parfois compliqué à comprendre, eh bien, il était parlé de Jésus. On nous parle de Jésus. Et Luc 24, verset 27, alors que les disciples se rendent à Emmaüs, Jésus vient de mourir à la croix, les disciples viennent d'entendre que finalement, eh bien, le tombeau est vide, mais ils sont en train de se dire, mais on pensait que ce Jésus, c'était lui qui délivrerait Israël, et ils étaient tristes, et Jésus arrive comme ça, il est mort, il est ressuscité, il se présente, avant d'être glorifié, se présente à certains disciples, et là, il va vers les disciples d'Emmaüs, et il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Alors ils lui disent, mais t'es pas le seul à ne pas être au courant de ce qui vient de se passer. Et là, Jésus, après, il va leur expliquer, il dit en fait qu'il va commencer à leur expliquer par Moïse et tous les prophètes. Il leur explique toute l'écriture, dans toutes les écritures, ce qui le concernait. Dans l'Ancien Testament, eh bien, on nous parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de Jésus. Dans l'Apocalypse, on nous parle de Jésus. Tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus. Et il est dit ensuite qu'ils se disaient l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Expliquer les Écritures, Jésus leur expliquait et leur cœur brûlait. Depuis quand ton cœur a cessé de brûler pour l'Écriture? Ou autrement dit, est-ce que ton cœur brûle encore quand tu lis la parole de Dieu? Et même quand tu lis l'Ancien Testament? Parce que quand on y va avec le cœur et les yeux comme un enfant, eh bien le Seigneur nous parle au travers de l'Ancien Testament. Si on prend le rocher avec Moïse, eh bien il est dit que c'était une préfiguration de Jésus qui abreuve dans le désert. Quand on nous parle de la loi, on dit que c'était l'ombre des choses cachées, que c'était un pédagogue pour nous amener à Christ, l'excellence de Christ. Ça vous donne envie? Ouais. Et Paul va passer du temps comme ça à expliquer aussi dans les Épîtres ce que nous sert aujourd'hui de l'Ancien Testament. Ça nous sert d'exemple, ça nous révèle également Christ. Et aimer la parole, c'est aimer Christ, c'est aimer la vérité. Et Jérémie dira, je dévore ta parole et je la reçois avec joie et allégresse. Est-ce que nous avons encore notre cœur qui reçoit la parole avec joie et allégresse? Est-ce que nous dévorons la parole de Dieu? Et souvent, juste notre dévotion, notre envie pour la parole de Dieu, parfois va être altérée juste par des raisonnements disant « Mais ok, c'est Dieu qui a inspiré la Bible, mais ça a quand même été écrit par les hommes. » Et puis parfois, on a le sentiment qu'il y a des contradictions. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune contradiction. Souvent, c'est parce que c'est nous, en fait, qui la lisons mal. Parce que si c'est la vérité ne peut pas être vérité un temps, et puis d'un coup, voir l'opposé dans la Bible et dire « Je comprends pas. » C'est nous, en fait, qui comprenons pas ou qui prenons pas le temps, parfois, de comprendre ce qui est écrit. Mais la vérité ne s'altère pas. La vérité est la vérité, c'est un absolu. Tout le monde, il y a même parfois des philosophes qui ont voulu discuter de la parole de Dieu, de l'existence de Dieu, qui ont voulu même, dernièrement j'entendais, c'était Voltaire qui disait, mais il rêvait en fait d'empêcher la Bible, d'empêcher la publication de la Bible, et il espérait même que dans les années qui poursuivraient sa mort, eh bien qu'en fait la Bible n'existe pas. Mais il était mal barré, parce que c'est Dieu qui soutient la parole, et même si l'adversaire, même si des hommes athées veulent détruire la parole, c'est impossible parce qu'ils détruiront Christ, ils voudraient détruire Christ ou Dieu. Bah, franchement, moi, je m'y attaquerai même pas parce que c'est juste une œuvre perdue, c'est mort de chez mort. Et personne ne peut détruire la parole de Dieu, parce que dans Jean, il nous est dit que la parole était au commencement avec Dieu et que la parole s'est faite chair. Et c'est Jésus la parole, c'est Jésus la vérité, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien d'altérable. Tout est compréhensible, mais quelque part, il nous faut être patient. Vous savez, comme quand on joue en fait au Rubik's Cube, je sais plus, au Rubik's ou Rubik's Cube, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, finalement, il y a les faces bleues, les faces rouges, oranges, etc. Et en fait, quand tu fais une face, eh bien, tu dois essayer ensuite de faire l'autre face, et c'est compliqué. Mais à un moment donné, à force de persévérance et d'exercice, bah, tu arrives à rendre le cube avec toutes les couleurs qui sont le bleu avec le bleu, le vert avec le vert. Eh bien, la parole de Dieu, c'est comme ça. Peut-être qu'au début, c'est un brouhaha. Peut-être qu'au début, il y a des choses qui te sont incompréhensibles, qui nous sont incompréhensibles. Et il y a des choses qui sont encore compliquées même. Par exemple, quand on lit l'Apocalypse, il y a des choses qui sont compliquées, des images qui sont compliquées. Mais Dieu est souverain. Et Dieu, lui, c'est bon, j'ai toutes les facettes de mon cube. La vérité de A à Z. Et ça doit nous encourager vraiment à persévérer dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et pas juste dire, oh, je comprends pas, ça me saoule, j'en ai marre. Non, bah, prends le temps qui t'est nécessaire pour lire la parole et pour la comprendre et la méditer et pour la ruminer. Et vous savez, Christ, la parole, eh bien, lui-même utilisait la parole comme autorité. On ne va pas l'afficher, mais quand vous pourrez lire chez vous, dans Matthieu 4, quand Jésus est emmené au désert, eh bien là, Satan va le tenter. Et c'est assez impressionnant parce que je trouve que Jésus, qui est la parole, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, il va citer la parole face à Satan. Et ma question ce matin, c'est bien, tu fais quoi quand Satan vient t'oppresser? Que fais-tu quand tu es tenté? Que fais-tu quand tu sens l'oppression? Est-ce qu'on fait des abracadabras et on essaie de s'inventer des techniques? Ou est-ce que finalement on va faire comme Jésus? On va connaître la parole, on va la citer, on va dire, Satan, tu fuis loin de moi parce que la parole de Dieu est victorieuse, parce que la parole de Dieu a autorité. Et je trouve ça assez impressionnant et marrant même, parce que Christ lui-même va citer la parole face à Satan. Et quand Satan va lui demander de changer les pierres en pain parce que Jésus ne se nourrissait pas, eh bien Jésus lui répondra et il citera Deutéronome. En fait, il prendra tout simplement ce que Dieu a donné à Moïse. Il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le contrôle de la société se donne par le pain et le jeu, mais il y a un pain qui vient de là-haut, la nourriture céleste qui va venir nous changer, nous transformer, qui va venir nous renouveler dans cette intelligence à laquelle nous sommes appelés, à ne pas nous conformer aux choses présentes, mais à être conformes à la parole de Dieu. Quand Satan va lui dire « Jette-toi du haut du temple et les anges viendront à ton secours », Jésus répondra « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Et il reprend la parole, il reprend ce qui a été dit au travers de Deutéronome, et il le cite et Satan ne peut plus rien dire parce qu'il y a l'autorité de la parole de Dieu. Quand il dit « Adore-moi, prosterne-toi devant moi et tu auras tous les royaumes du monde », Jésus lui répondra « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le suivras lui seul ». Et là, la messe était dite, tout était dit. Satan ne pouvait, Jésus, il déclare la parole et la parole a une autorité. Et vous savez, l'année dernière, à un moment donné, je faisais un cauchemar. Et parfois, en fait, Satan vient m'oppresser au travers de certains cauchemars où je vais, par exemple, faire un cauchemar et je vais voir une personne très méchante où je sens vraiment la présence de Satan. Et dans ce cauchemar, l'ennemi donc venait m'embêter. Et en fait, et clairement, une femme méchante vient vers moi et me dit « Satan veut te détruire ». Et là, je me réveille d'un coup en me disant « Ok, Satan a envie de m'embêter, d'accord ?» Et en fait, le réflexe que j'ai eu, j'ai tout simplement cité la parole. Et j'ai cité le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis rendormie. Mon cauchemar a continué, mais je vous expliquerai la suite. Mais c'est vraiment quelque chose de spirituel, hein. C'est pas à prendre à la lettre. Donc la femme me dit que Satan veut me détruire. Je cite ce passage, je me rendors. Et là, je rêve. Pourtant, vous voyez un peu ma stature quand même. Je suis pas très grande, je suis pas très forte. Et donc là, je rêve que je combats cette femme, que je bats le combat. Et qu'ensuite, j'avais le discernement. Je revoyais d'autres personnes dans mon cauchemar, des personnes méchantes. Et je savais discerner l'esprit qui était sur ces personnes-là, et je gagnais le combat, et c'était spirituel, je gagnais le combat, j'ai dit, psaume 91, je suis à l'abri du Très-Haut, je me suis rendormie, et j'ai passé une très bonne nuit, et l'oppression Satan se vint par l'autorité de la parole, par la parole, amen. Et vous savez, on dit que Jésus est la parole et la parole de Dieu, la Bible nous dit que tout a été mis sous ses pieds. Il est le chef suprême de l'Église. Il a l'autorité. Nous avons l'autorité face à Satan en demeurant dans la parole. Amen. Paul aussi nous exhortera dans la Bible en disant que nous n'avons pas à nous mettre sous des jougs, sous des esclavages, sous l'esclavage du péché, parce que nous avons été appelés à la liberté. Et Jésus lui-même dira dans Jean 8, versets 31 et 32, en disant « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes libres. Nous ne sommes pas appelés à être sous l'esclavage, sous un joug quelconque. Jean 17, verset 17, il nous est dit « La vérité nous sanctifie et la parole est la vérité. » Amen. Quand il y a deux semaines, Fred avait partagé aussi sur la parole de Dieu. Et à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai apporté une parole où le Seigneur disait « Mais demeure dans la parole de Dieu et tu auras la victoire sur le péché. » Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et là aussi, il n'y a pas 36 000 techniques. Si on veut demeurer ferme et fort face au péché, eh bien nous avons à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la parole nous sanctifie. Et non seulement la parole, mais l'Esprit du Seigneur qui accompagne la parole, qui atteste et qui vient faire son travail dans notre cœur, eh bien nous aide à nous sanctifier. Et j'avais peut-être déjà apporté ce témoignage, mais quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je me débattais vraiment avec un péché. Et ça m'énervait parce que je lisais Paul qui disait « Oui, nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire. » Mais je disais « Mais je fais, j'y arrive pas !» À chaque fois, il y a un truc qui vient et paf, c'est tapis à nos pieds et puis on plonge dedans. Et ça me saoulait, j'étais vraiment attristée. Et je disais à Dieu « Mais je fais, si je ne sais pas vivre cette transformation de gloire en gloire, ça voudrait dire que je pourrais déchirer cette page. Et or, ta Bible, ta parole est vraie et véritable. » Et je me souviens, je disais ça à Dieu, et à ce moment-là, c'était le week-end de Pâques, et j'allais à The Rencontre, et je me souviens, pendant cet événement, eh bien, il y avait des temps de louanges, de prédications, et ensuite, à la fin, il y a eu un appel, et je disais à Dieu, mais moi, je m'avance pour avoir la victoire sur ça, sur le péché. Et je me souviens, je me suis avancée, mais vous savez, quand vous êtes résolu dans votre cœur, vous le savez. Et parfois, en fait, on dit « je vais essayer de ». Mais si tu es déjà dans l'optique de « essayer de », bah, tu risques d'échouer. Par contre, c'est « je vais me résoudre et je me résous à vivre ce que la parole dit concernant la sainteté et la sanctification », eh bien là, ça marche. Et là, j'étais résolue dans mon cœur et j'ai couru devant. Je me suis agenouillée et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et je me suis relevée et je savais que j'avais été transformée dans mon intelligence. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais je le savais. J'avais la certitude et plus jamais je suis retombée dans ce péché. Plus jamais, parce que j'ai tellement de joie à avoir goûté et à avoir pu vivre ce que la parole dit, que j'en serais morte de tristesse de retomber dedans. Parce qu'il m'est plus agréable de connaître et de vivre la vérité que de retomber dans le péché. Et ça doit nous encourager. Nous avons à nous encourager mutuellement à demeurer dans la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu pour être sanctifiés et vivre en sainteté. Amen. Et il en est de même pour l'adoration. Il nous est dit dans Jean 4, verset 23, Jésus dira que le Père demande des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Mais comment peux-tu adorer le Seigneur si tu ne le connais pas? Si tu adores, c'est un chant qui parle de fidélité, mais si tu ne connais pas sa fidélité, eh bien le Seigneur le sait que tu ne le connais pas. Donc finalement, tu le loues du bout des lèvres, mais dans ton cœur, tu ne connais pas ce que c'est la fidélité de Dieu. Si on parle de miracles, de prodiges, si on parle de sainteté, mais que tu connais pas, que tu le vis pas, ben tu sais pas ce que c'est, tu l'adores pas vraiment. Et nous sommes amenés à adorer vraiment en esprit, de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et la vérité nous pousse à adorer le Seigneur. La vérité nous pousse à adorer le Seigneur. Et le Seigneur sait très bien sur ce que nous connaissons de lui ou ce que nous connaissons pas. Et chaque année, je fais quelque chose avec le Seigneur, c'est que, enfin, chaque année pour moi, souvent, c'est à compter du mois de septembre, je suis encore sur mes années étudiantes, et c'est le mois de septembre où souvent je fais un bilan, et je dis au Seigneur, je dis, voilà, ça, je te connais, je sais qu'intimement, je te connais sur tel et tel domaine, mais je ne te connais peut-être qu'intellectuellement sur tel et tel domaine. Par exemple, pour moi, à un moment donné, je disais à Dieu, je sais que tu es fidèle, mais honnêtement, je ne sais pas dans mes entrailles. Je ne sais pas au fond de moi. Je sais, je lis la parole, je sais, je le vois, c'est écrit. Mais je disais à Dieu, je fais quelque part, je ne sais même pas si j'ai vraiment déjà vécu ta fidélité. J'étais honnête devant Dieu. Je pensais à certaines choses et je me dis, j'ai besoin de te connaître comme ce Dieu fidèle. Ou par exemple, comme ce Dieu de miséricorde. Ou à un moment donné, je disais à Dieu, j'ai besoin de te connaître comme, oui, ce Dieu saint. Ce Dieu qui pardonne, de sentir vraiment qu'on est pardonné de Dieu. Et chaque année, je fais ce bilan-là. Et je dis à Dieu, je veux te connaître intimement dans tel et tel domaine. Et vous savez, avant d'avoir Julia, justement, et même avant d'être dans l'épreuve de l'enfantement, eh bien, j'avais demandé à Dieu, je me souviens, je sais exactement où j'étais, chez mes parents, dans ma chambre de jeune adulte, là. Et je disais à Dieu, je veux te connaître dans la fidélité. Eh bien, dans l'épreuve de l'enfantement et avec l'arrivée de Julia, j'ai vu la fidélité de Dieu. Mais là, si j'adore Dieu dans la fidélité, je le sais intimement. Je le sais au fond de mes tripes. Je peux l'adorer, mais à me mettre à plat ventre concernant la fidélité de Dieu parce que je l'ai vécu et je sais à quel point Dieu est fidèle. La sainteté, je sais à quel point Dieu est saint. Et alors, est-ce que ça nous arrive au travers de la vérité à vouloir nous mettre à plat ventre devant l'Éternel tellement la vérité va nous transcender, tellement on va se dire, mais oui, ça, je connais ça de toi, pas intellectuellement, mais là, dans nos tripes, au fond de nous. Et Dieu n'est pas là en disant, oh, dis donc, tu me connais pas. Il le sait, il attend qu'une chose, c'est se révéler à nous. Il veut se révéler à nous, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré, amen. Et c'est pareil pour la foi. La foi, la parole de Dieu nous dit, Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et parfois, même pour moi, je vais être vigilante en me disant « Ma foi, c'est pas mes objectifs, c'est pas mes rêves. » Parfois, on voudrait paraître des hommes de foi, des femmes de foi, en disant « Ah, on va mettre tel et tel projet en place. » Mais notre foi ne doit pas être basée sur nos objectifs. Notre foi ne doit pas être basée sur nos rêves, les meilleurs rêves, les plus beaux rêves qu'on a pour Dieu. La foi s'alimente de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Quand on est ensemble, quand on s'édifie, notre foi est alimentée. Comme Jésus l'a dit à Satan, l'homme ne se nourrira pas que de pain et de l'eau. Il se nourrira de la parole de Dieu. Et la foi basée sur la parole de Dieu, bah oui, ça c'est une foi puissante. L'Église est puissante quand elle demeure dans la foi basée sur la parole de Dieu. Mais si notre foi devient juste la réalisation de nos objectifs, où on se dit j'ai prévu ça comme objectif et je m'assois sur mon objectif, bah là ça marchera pas. Mais la foi qui vient de la parole de Dieu, là ça marche. Là c'est infaillible parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne s'altère pas. Amen. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est important d'être dans la vérité et de demeurer dans la vérité parce que la vérité nous aide justement à détecter ce qui est faux. Finalement, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si quelqu'un vient te parler et te dit des mensonges bibliques, comment sais-tu les reconnaître? Tu compares quoi à quoi? Et nous sommes amenés à connaître la parole de Dieu pour comparer les choses. Et par exemple, dès le début, dès l'Église primitive, eh bien l'Église a été confrontée au laxisme. Je me vote dans le péché parce qu'il y a la grâce, parce qu'on ne comprend pas la grâce. On ne comprend pas quand Paul, par exemple, dit « là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans le péché. Ça veut dire que désormais, on a Christ, mort sur la croix, ressuscité, élevé à la droite du Père, qui nous aide à vaincre le péché. Alors la grâce surabonde, parce que maintenant, ça vient en nous, ça transforme notre cœur. C'est plus juste couvrir le péché par des sacrifices, mais c'est notre cœur, notre corps, notre intelligence qui est transformée. Amen. Ou à contrario, Paul y mettra en évidence que certains se mettaient sous la loi. Alors il y a deux types de lois. Il y a la loi de Moïse, on revient à ce que Moïse a dit alors que Jésus a dit je l'ai accompli. Et Paul dira que quand Jésus disait que la loi, il est venu l'accomplir, ça veut dire qu'il est venu, lui, c'était l'ombre des choses à venir. La loi annonçait Jésus et Jésus est venu. Ça s'est accompli. L'excellence de Christ, ça s'est accompli. Le réel pardon des péchés qui transforme nos cœurs, ça s'est accompli. Amen. Il y a aussi souvent des lois humaines où on va se mettre sous des jougs. Et finalement, chacun, notre discipline, par exemple, pour la parole de Dieu, c'est votre conscience devant Dieu, selon votre rythme de vie, selon qui vous êtes, selon votre rapidité à comprendre ou non les choses. Bien sûr, plus qu'on passe de temps dans la parole de Dieu, ou plus on prie, plus on est fort. Mais moi, ce que je fais, ça me concerne moi devant Dieu, dans ma conscience, dans ce que je fais ou je ne fais pas. Et je ne peux pas imposer mon style, par exemple, si je dis une bêtise, d'accord? Si je me réveille à 4 heures du matin exprès pour prier, je ne peux pas dire à Alex, tu dois faire ça. Si Alex, c'est 10 heures du matin ou 8 heures, c'est 8 heures. Et ce n'est pas une loi. Et on doit faire attention que nos styles de vie, qui sont des styles de vie, même si ça doit nous encourager, et comme ça a été dit tout à l'heure, on est témoin, on doit être un témoin, mais ce n'est pas un joug pour notre frère ou pour notre sœur. Amen. Et Jésus le détectera même auprès des pharisiens. Il dira, vous pourrez le voir dans Matthieu 15, il dira aux pharisiens, vous êtes sur des commandements d'hommes, vous n'êtes pas sur ma parole, vous êtes en train de mettre le peuple sous un joug d'hommes, d'humains. Et on doit faire attention. Ce que je fais, et où par exemple, je vais vous donner un autre exemple pour être encore concrète. Quand j'attendais Julia, c'était personnel, c'était un vœu que j'avais fait devant Dieu, d'accord? Je disais, je ne mettrai pas de vernis parce que voilà, j'avais forcément étant éprouvée, je m'étais renseignée par exemple sur tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, d'accord ? Et selon les marques, il y en a plus ou moins. Voilà, c'était ma recherche et c'était ma conviction où je voulais me dépouiller de quelque chose devant Dieu. Ça ne fait pas moi d'une meilleure chrétienne. Et si Noémie se met du vernis, elle est aussi chrétienne que moi, vous comprenez ? C'est une règle, c'était quelque chose que moi, je voulais pour ma vie. Et dans la manière dont je vais lire la parole de Dieu, combien de temps, etc. Et puis comme je vous disais, bien sûr, on doit s'encourager à progresser, mais on ne doit pas se mettre sous le joug de notre propre discipline ou d'une règle qu'on s'impose à nous, mais c'est notre règle à nous. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, vous vous lèverez à telle heure, vous ferez ça, 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 ça. D'accord ? Et Paul distinguera aussi ce qu'on appelle en fait l'ascétisme, c'est-à-dire brider le corps. Des gens vont mener une vie austère parce qu'ils ne veulent plus du tout dans les autres aucun plaisir. Si tu manges un McDo, si tu te fais une bonne pizza, ou si tu peux profiter, de te mettre au soleil, par exemple, pour des gens, ça va être très vite. Oh, attention, péché, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais c'est vrai. Et parfois, certaines personnes sont vraiment dans cette démarche de s'affliger le corps, d'être dans l'affliction du corps. Et parce que là aussi, Paul dira, je traite durement mon corps. Mais Paul ne s'infligeait pas des traitements que Dieu ne lui demandait pas. Déjà, essayez de bien tenir votre jeûne. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je crève de faim. Et si, quand j'ai décidé de jeûner, par exemple, je suis en train de faire le repas de Julia, parfois, j'ai un automatisme, je goûte. Et c'est plus fort que moi, c'est ma chair. Et donc, déjà, tenir sa chair en entier, quand on se dit, je prends telle résolution. Déjà, si on sait tenir pleinement dans notre résolution, on est déjà bien fort. Amen. Et donc, c'est important. C'est important parce que de notre compréhension et de notre connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons donc détecter, et il y en a encore plein d'autres. Là, j'ai pris le laxisme, le légalisme, et il y a le culte aux anges. Paul était confronté à est-ce que Jésus est ressuscité ou pas ? Est-ce qu'il y aura la résurrection des morts ou pas ? Certains disaient, mais la résurrection a déjà eu lieu, alors qu'elle n'a pas encore eu lieu. Vous voyez, il y avait tellement de brouhaha, de mensonges, bien qu'il fallait revenir à ce que Jésus avait dit. Et nous, il nous faut revenir, et d'autant plus dans ces temps où on fait tout pour nous divertir, pour que nous ne réfléchissions pas à être dans la parole de Dieu. Amen. Et là aussi, c'est important, et je trouve ça intéressant, dans Actes 17, verset 11, il nous est rapporté que bien, alors que Paul et Silas étaient en mission, et bien en fait, il nous est dit que les Juifs examinaient la parole de Dieu. Et il est dit, ces derniers, donc on parle des Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est l'apôtre Paul qui est allé en mission et l'apôtre Paul n'était pas vexé que les gens réfléchissent à ce que l'apôtre Paul disait. Et donc ce matin, je vous encourage et je ne serai pas vexée et on n'a pas à être vexée à réfléchir sur ce que nous exhortons les uns les autres, à ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, à ce que nous entendons. Nous avons le droit et nous avons un devoir. Antoine, dernièrement, nous disait, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes matures en Christ, des hommes et des femmes affermis et nous avons notre rôle pour examiner la parole de Dieu. Amen. Et ce n'est pas un manque de foi que de se poser des questions. Ce n'est pas un manque de confiance. Ce n'est pas avoir le cœur froid, elle n'est pas brûlante, ou parce qu'elle pose une question, parce qu'elle n'a peut-être pas compris quelque chose. Non, c'est j'utilise l'intelligence que Dieu nous a donnée, parce que Dieu nous a donné une intelligence et nous ne sommes pas comme les animaux à être comme ça hébétés. D'accord ? Nous avons même Paul dira aux Galates, parce qu'ils étaient dans le légalisme, vous êtes dépourvus de bon sens. Dieu nous appelle à garder notre sens. Et ensemble, on s'encourage, parce que nous sommes une église qui aime la vérité. Nous aimons la vérité, on s'encourage à demeurer dans la vérité, à examiner. Et ce n'est pas un manque de foi, je le répète, c'est tellement important. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un cœur froid. Mais ils étaient, quand c'est écrit dans les Actes, c'est justement pour dire, hé les gars, ils réfléchissaient, mais ils connaissaient la parole, donc ils avaient de quoi comparer. Amen. Et vous savez, c'est tellement important parce que Jésus fera au contraire le reproche aux pharisiens. On va prendre Matthieu chapitre 23, verset 13. Et Jésus, il va être très dur avec les pharisiens. Il va leur dire « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Et là, ça rejoint pleinement la parole de Wilfried tout à l'heure. Tu ne veux pas entrer dans la vérité, tu ne veux pas examiner, tu veux te laisser être aux proies à des mensonges. Eh bien, tu empêches le royaume de Dieu d'avancer. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vouloir la présence de Dieu et croire que la présence de Dieu viendra là où tu, finalement, tu es en proie aux mensonges et à tout ce qui peut se dire et se passer dans le monde. Mais à contrario, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a stimulée, même avant d'avoir Juliette, je disais à Dieu, mais plus loin j'irai avec toi, non seulement pas qu'en intelligence, mais en application, en témoignage, et bien plus je pourrais lui donner, au mieux j'aurais compris, au mieux je pourrais lui transmettre. Et finalement, et bien cette transmission, elle est importante parce qu'elle permet non seulement à nous, mais à la génération qui suit, d'entrer à son tour dans la vérité, dans la compréhension de cette vérité. Et Paul, c'est ce qu'il dira à Timothée. Il dira, veille sur l'enseignement, non seulement pour toi, mais pour ceux qui sont autour de toi, pour ton salut et pour le salut de ceux qui t'entourent. Amen. Tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Notre responsabilité, elle est grande, non seulement si on enseigne au sein de l'Église, mais en tant que qu'être humain qui avons des relations. Nous avons des relations, des amis, des frères et sœurs, comme c'était dit, des parents, pour certains, des enfants. On doit transmettre le témoin de la vérité sans l'altérer et en donnant cette capacité aussi à la génération qui suit à réfléchir, parce que honnêtement, je vous le dis, à ceux qui sont plus jeunes que nous, vous avez un réel défi de garder votre réflexion en alerte, un réel défi face aux réseaux sociaux. Il y a du bon, mais faites attention. Vous avez un réel défi de garder cette capacité de raisonner, parce que moins une nation raisonne, et bien plus elle est en proie à la domination. Et c'est comme ça que ça marche dans les pays où il y a des dictatures. Vous enlevez l'information, la liberté de l'information, et bien c'est les dictatures, c'est ce qu'elles font tout de suite, elles enlèvent l'information. Elles veulent faire rentrer leur nation dans l'obscurantisme. On coupe l'accès à Google, on coupe l'accès à plein de choses, et on martèle des mensonges. Nous sommes amenés à être vigilants et à être alertes. Parce que même des intellectuels qui ne sont pas pour autant chrétiens le disent. Alors encore en plus, nous, peuple de Dieu, nous sommes amenés à être vigilants. Amen. Et je terminerai par ça. C'est-à-dire que dans la persévérance à la parole de Dieu, eh bien nous sommes amenés à demeurer dans l'amour et dans l'humilité. Et on va finir en prenant Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4, et je trouve ça tellement intéressant ce que le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse. Il va dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Donc il y avait énormément de discernement, il connaissait la vérité. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Et verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et le premier amour, quand on prend les commandements que Jésus nous a laissés, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton corps. » Et c'est aussi « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça doit être une borne pour nous dans la persévérance, c'est de se dire que oui, je persévère dans la vérité, mais toujours avec de l'amour. Avec de l'amour pour Dieu et de l'amour pour mes frères et sœurs. Et l'humilité, comme Paul, de dire « Nous ne connaissons pas tout, je ne connais pas tout. » Alors oui, ça m'intéresse d'entendre ce que Alex a à dire, ce que Sandy a à dire, ce que Fred Antoine a à dire. Ça m'intéresse de discuter avec mes amis, parce que je ne connais pas tout et je m'édifie. Et je me fortifie aussi auprès des autres. Et on apprend beaucoup en étant les uns avec les autres et en se, quelque part parfois même en se confrontant peut-être sur nos positions. Mais on apprend. Et ça doit être des bornes pour nous, pour l'Église de Dieu, de demeurer dans l'amour et dans l'humilité de dire on ne connaît pas tout. Paul le disait, nous aussi, nous devons le reconnaître, et je le reconnais, je ne connais pas tout, je ne comprends pas encore tout. Mais je sais une chose, c'est que je veux aimer le Seigneur mon Dieu de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur, et je veux vous aimer comme le Seigneur me demande de vous aimer. Amen. 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 Je veux vraiment vous laisser avec ce message et vous demander vraiment de réfléchir, d'être alerte sur ce que nous entendons partout autour de nous, et de réfléchir et de demander à Dieu, viens sonder mon cœur. Viens sonder mon cœur. Et si ce matin, eh bien, on pourrait juste finir par ça en disant, mais Seigneur, si vous pouvez vous lever et juste dire au Seigneur, ensemble, prions-le en disant, sonde mon cœur. Dis-moi,